La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Eh bien aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est un moment historique.
Ah, quasiment.
Puisque nous avons terminé les titres proprement dit, on en était à la lettre Z.
Et vous savez qu'on y est depuis un sacré moment.
Mais il reste quand même quelque chose, c'est-à-dire les chiffres. Eh oui.
Eh bien oui, les lettres et les chiffres. Et les chiffres comptent aussi, et dans notre dictionnaire des titres, ils sont à la fin. Donc cette émission, qui est vraiment l'émission de conclusion du principal, car il nous restera, comme le veut la tradition, à explorer l'appendice.
Mon Dieu, vous voyez que c'est pas fini tout ça.
Eh ben non, parce que vous savez que dans tous les bons dictionnaires, par exemple du Littré, il y a les 4 tomes, et puis quand vous avez fini les 4 tomes, si vous y arrivez, parce qu'il y a quand même plus de 100 000 entrées, eh bien il vous restera l'appendice, c'est-à-dire tout ce que le bon docteur avait oublié. Eh bien là, c'est pareil, tout ce que nous avons oublié, nous allons en faire une série bis, mais aujourd'hui, c'est la fin de la série principale. Et nous allons commencer par vous emmener en train, une fois de plus.
Avec le chiffre 7, puisque le titre c'est « 7 Avenue » Express.
C'est une sorte de RER new-yorkais qu'on appelle l'express de la 7e avenue.
Alors, bien sûr, c'est un express puisqu'il saute un certain nombre de stations pour aller plus vite.
Oui, parce qu'à New York, le métro est constitué de deux choses parallèles assez astucieuses. Vous prenez une ligne qui saute tout un tas de stations et quand vous arrivez à proximité de la vôtre, pouf, vous changez de côté sur le quai et vous prenez celui qui fait toutes les stations et puis ça va quand même beaucoup plus vite. Cet express de la 7e avenue, il est intéressant. Car d'abord, c'était le plus long, la ligne la plus longue.
Et puis, il passe par des endroits un peu emblématiques hein, pour notre jazz, hein, puisqu'il passe par le Bronx, quartier très très populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Harlem, naturellement. Harlem.
Ah oui, ça, il traverse Harlem.
Après, il va un peu dans les beaux quartiers, Manhattan, et il termine dans carrément un faubourg de New York, à Brooklyn.
Oui, alors du Bronx à Brooklyn, ça fait quand même un sacré chemin. Il y a gros à parier que pour aller travailler le soir avec l'orchestre, ils prenaient justement ce fameux express pour se retrouver dans les boîtes de la 52e rue ou dans celle de Harlem. De toute façon, c'est un superbe arrangement de Buck Layton et nous vous le livrons
expressément.
Thank you. voici maintenant devant un morceau qui s'appelle Four F Blues, autrement dit 4F.
Alors celui-là, il a des raisons de s'appeler 4F.
Deux raisons exactement.
Qui ne sont pas du tout en communication l'une avec l'autre.
Ah oui, absolument.
La première, c'est à l'armée. Un 4F, c'est un gars qui est inapte au service de l'armée.
Voilà, c'est très simple. Vous arrivez, vous êtes le cas le pire qui soit, parce que là, c'est vraiment le pire possible.
Oui.
L'armée veut pas de vous et elle vous met en 4F, si bien que le 4F est également devenu une sorte de qualificatif à la limite injurieux.
Quant à l'autre acception, je laisse à Laurent le droit d'aller la raconter, parce que moi, je préfère pas.
Oui, c'est très vilain, en fait. C'est une règle de conduite de certaines personnes.
Certains hommes, ben, je précise.
C'est une formule qui concerne la manière de traiter la gente féminine. Comme ça, ajoute l'histoire, vous n'aurez jamais de problème. Alors, ce sont les 4 F. Find M, évidemment, il faut les trouver. Fool M, ah là, il faut les affoler. Fuck M, là, je n'insiste pas. Vous avez compris de quoi il s'agit. Forget M, oubliez-les.
Sympa, hein ?
C'est sympa.
Écoutez ça, les filles. Hein,
ouais. Remarque, Mozart a déjà mis ça en musique il y a bien longtemps dans un opéra célèbre, qui se termine d'ailleurs très mal pour le promoteur de la formule des 4F, hein, finalement. De toute façon, le Four F Blues que vous allez entendre, c'est plutôt la première version, celle de l'armée, qui est illustrée par le vocaliste. C'est une séance assez spéciale, où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient tous bien partis.
Girls, what you gonna do when Uncle Sam takes your boy up and bend the wall? What you gonna do when Uncle Sam takes your boy up and bend the wall? Some of you gonna drink muddy water, sleep in a hollow log. Took your good soldier's money and give it to your boy up man. Took that good soldier's money, give it up to your poor man. Now Mr. Roosevelt has passed a bill and brought out a brand new plan. Get it?
Oui, c'est vrai, ils sont bien partis. Hein. Le chanteur est en fait un danseur connu qui s'appelait Rubber Legs Williams. Beaucoup de gens se demandent s'ils avaient même compris qu'on était en train de les enregistrer. Et là-dedans, il y a les illustres Charlie Parker et Dizzy Gillespie qui venaient à l'époque, qui étaient en plein élan créatif pour leur nouvelle musique qu'ils appelaient le bebop. Enfin là, ils sont un peu retournés à leur pays d'origine quand même. Le morceau suivant, en fait, c'est les morceaux suivants. Car nous allons aller à Chicago, grande époque, prohibition, gangstérisme et le jazz partout dans le quartier sud.
Quand vous donnez une adresse à Paris, vous donnez le temps de la rue tant ou de la rue une telle.
Je ne connais pas cette adresse-là. Vous pouvez préciser, madame, s'il vous plaît.
Mais par contre, en Amérique, vous donnez le nom des deux rues qui se croisent. Parce que ce qui est important, c'est le carrefour.
Et à Chicago, dans le quartier sud, C'est un peu comme à New York, à Manhattan, les avenues, dans un sens les rues, dans l'autre, sauf que là, les avenues ont tout un nom. Il y en a même une qui a un nom de rue, qui s'appelle State Street. Mais il y a Wabash, il y a Calumet, il y a Dearborn. Ce sont des endroits qui, entre la 29e et la 35e rue, ont délimité un quartier où se trouvaient énormément d'endroits de jazz dans les années 20.
Vous avez le Royal Garden, le Sunset Café,
où se produisait Louis Armstrong,
l'Apex Club,
où se produisait Jimmy Noon,
et le Blue Flame, ça on ne sait pas, c'est la flamme bleue, c'est joli ça quand même. Si bien que ce que nous allons vous passer, c'est 29e et Dearborn, c'est-à-dire le nom de la rue.
Et de l'avenue.
35e et Calumet.
Bah pareil.
Et 35e, encore une fois, et Dearborn.
Et à mon avis, quel que soit l'angle de rue concerné par ces trois adresses-là, vous étiez pas loin du paradis musical que vous cherchiez. Pour vous recréer un petit peu l'atmosphère de ce quartier sud de Chicago, nous allons passer trois morceaux à la file, dont les titres sont exactement les carrefours dont tu viens de parler.
Vous entendrez successivement Johnny Dodds et d'autres comparses, bien sûr. Puis Mesereau dans ses œuvres. Et enfin, Jimmy Yancey.
Pianiste qui complète l'atmosphère du lieu. Et vous savez, ce quartier est resté jusqu'à maintenant, une sorte de capitale du blues. Thank you.
ça se termine d'une façon un peu bizarre. Hein, on a l'impression que, ting, c'est pas du tout fini.
Eh ben, ce petit pop-pop, c'était la signature de Jimmy Yancey qui terminait pratiquement tous ses morceaux comme ça.
Et c'est amusant parce qu'effectivement, il y a de nombreux cabretaires chez nous qui terminent leurs morceaux avec cette espèce de signature en hauteur, comme s'ils disaient « Attendez, j'ai pas tout fini ».
Nous n'allons pas quitter le blues et le piano, d'ailleurs, puisque voici maintenant un morceau qui va faire entendre Roosevelt Sykes. Roosevelt Sykes est un sacré bluesman. Nous l'avons rencontré à Paris il y a bien longtemps, parce qu'il est venu en Europe. Assez fréquemment, d'ailleurs, il était très apprécié. Là, c'est le blues, le piano blues qui va au fond des choses. Le morceau s'appelle, naturellement, puisque nous sommes dans les chiffres, 44 Blues.
C'est-à-dire 44 blues.
Ah, alors le 44, ça peut désigner pas mal de choses. D'abord, c'est un train.
Ensuite, ça a une autre acception.
Eh bien, 44, ça rime avec war. Et war, ça désigne une dame, ce genre qu'on appelait de temps de nos grands-parents, une dame de petite vertu.
Allons, soyons clairs, c'est une prostituée. Et puis, bien sûr, c'est aussi un revolver.
Ah oui, le 44, c'est un revolver. Et puis alors, ça désigne également tout ce qui va avec ce qui précède, parce que, après tout, vous pouvez, dans un train, rencontrer une dame, lui flanquer une balle de revolver, et vous vous terminerez dans une cellule de prison.
Et ben voilà, voilà. C'est aussi une cellule de prison.
Alors, je ne sais pas pourquoi la cellule 44 a une telle réputation, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça.
Now I walked down that long and I couldn't find a car for my place. It'll be hell to tell this country when I see my baby's face. I know you're gonna feel bad when you look down a barrel of my 44. I know you're gonna feel bad when you look down a barrel of my 44. I done got tired, kind mama, so now you've got to go.
Et nous voici maintenant sur la route. Dis donc, quelle est la route la plus célèbre de France ?
Je réfléchis, mais je...
Chantée par Charles Trenet.
La N7.
National 7.
Eh oui.
Et celle des États-Unis la plus connue?
Eh bien, bien sûr, c'est la route 66.
Qui, elle, a été chantée par King Cole. Et cette route 66, c'est une route très spéciale pour le jazz. Cette route part de Chicago.
Elle passe par Saint-Louis.
Elle passe à proximité de Kansas City.
Puis se dirige vers Oklahoma City.
Puis là, vous entrez dans une région qui fait très extérieure de western. On passe par Albuquerque et on arrive à...
Los Angeles. Ça fait quand même un sacré chemin. D'accord, on descend un peu de Chicago, mais après, tout à l'ouest,
ah oui.
Et on traverse presque toute l'Amérique.
Pete Johnson, qui fut certainement, alors là, certainement à mon avis, ce n'est que mon avis, le plus grand pianiste de blues et de boogie, Pete Johnson a enregistré ce 66 Stomp, parce que justement, cette route, il la connaissait sacrément bien, vu qu'il a passé le plus clair de son temps entre Chicago, Kansas City et Los Angeles. Ce qui va suivre a été justement enregistré à Los Angeles à la fin de ce long voyage. Donc, c'est pas étonnant que ça l'ait un peu marqué. Et quand je dis à Los Angeles, c'est même plus exactement à Hollywood. Mais le talent de Pete Johnson ne se limite pas au boogie. Il sait tout faire. Et le morceau que vous allez entendre en a étonné plus d'un. Parce que c'est un morceau qui est entièrement joué en stride. Et pour ce qui est d'endiabler du stride, eh bien, Pete Johnson s'y entendait sacrément bien. Écoutez plutôt.
66 Stomp. A passé 44 blues, puis 66 stomp.
Et là, nous avons jeté les bases d'une intéressante série arithmétique. Que croyez-vous que nous allons vous diffuser maintenant ?
Cherchez bien.
Cherchez bien, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Nous vous donnons un indice. Combien de touches y a-t-il sur un piano ? Vous avez 3 secondes. 3. Personne ne nous téléphone, c'est absolument scandaleux, c'est incroyable. Eh bien, il y en a 88.
44, 66, 88.
Et vous remarquerez que c'est une série arithmétique de raison 22. Les agents de police ne sont jamais bien loin. En attendant, ce 88 Boogie, dédié naturellement aux 88 notes du piano, a été enregistré par une formation qui s'appelait...
Big Three. Encore un chiffre.
Encore un chiffre. Et là, c'est très étonnant, car tels les 3 mousquetaires, les Big Three étaient en fait 4. Mais l'âme du complot, c'était le contrebassiste Willie Dixon. Willie Dixon était un grand contestataire dans une énorme carcasse. Il était du Mississippi et à force de contester, il a dû évacuer rapidement sa grande carcasse en autostop jusqu'à Chicago.
Alors il a profité à Chicago de sa grande carcasse pour devenir boxeur.
Un poids lourd, naturellement.
Mais ça a drôlement bien marché.
Ah oui, c'est un très bon boxeur.
Puisqu'il a obtenu
les Golden Gloves du temps de sa gloire.
Oui, on n'avait pas intérêt à le contrarier, celui-là.
Non, pas vraiment. Est arrivée la guerre et naturellement, contestataire comme il était, il a totalement refusé toute idée d'aller porter les armes de l'oncle Sam et il s'est donc fait encabaner pour 10 mois. Sorti de là, il a décidé d'apprendre la contrebasse. Ou plutôt de se perfectionner parce qu'il avait déjà tâté un peu d'instruments. Il chantait aussi. Il gagnait sa vie dans la musique aussi.
La contrebasse paraissait petite dans ses mains.
Oui, c'est vrai. Nous avons pu le constater par nous-mêmes, puisque Willie Dixon a beaucoup joué avec Memphis Slim du temps où nous allions souvent écouter ce genre de musique. À l'époque de ce que vous allez entendre, eh bien, il avait eu l'idée de recruter son professeur de contrebasse, qui jouait aussi du piano, de s'adjoindre un guitariste et un batteur. Et voilà le résultat.
88 Boogie.
Le morceau suivant nous ramène à Harlem, puisqu'il s'appelle
125e rue, New York.
Oui, en anglais, c'est assez compliqué, nous vous l'épargnons. C'est joué et même chanté par un petit orchestre dirigé par le saxophoniste ténor Al Sears, qui, comme vous pourrez l'entendre, est un instrumentiste plutôt musclé.
Alors cette rue, elle comportait quand même des établissements vraiment célèbres, connus. Il y avait l'Apollo.
Ah ben, l'Apollo, ça, c'est un des grands lieux de Harlem.
Il y avait le Celebrity Club.
Où se produisait Buddy Tate.
Et oui. Puis aussi le Harlem Opera House.
Je crois bien que c'est là qu'Ella Fitzgerald a commencé à courir les crochets musicaux du temps de son adolescence. Et puis il y avait aussi des dancings le long de cette rue, comme le Rose Danceland, par exemple. Et en traînant un peu nos guêtres dans ce quartier, nous sommes tombés au carrefour avec l'avenue Friedrichs sur une sorte de céramique, on pourrait presque dire une fresque, mais comme c'est de la céramique, c'est pas très adapté. Une immense céramique avec des musiciens, une chanteuse, enfin. Et nous avons appris beaucoup plus tard que ça s'appelait « The Spirit of Harlem ». Et nous avons remarqué que des gens même se faisaient photographier devant. La 125e rue, c'est aussi l'axe, c'est une rue très large, c'est l'axe de Harlem, l'axe transversal de Harlem et le carrefour entre les deux axes. C'est 125e et Lenox, comme tout à l'heure nous disions, 35e et Calumet.
Central.
First stop
on the New York Central.
First stop,
New York. 125th Street. Let me get my bag. 125th Street, New York. Teresa's on one corner, right up a block away. 125th Street, New York, 76, Blandy Blankets in the Rainbow Shop. Youth on the stage makes the bottle rock. The sparrows wailing in the baby grand. 125th Street, must be on my way. 125th Street,
dans le train. Cette fois-ci, le chiffre, eh bien, c'est l'horaire du train. On va donc vous donner cet horaire, mais vous risquez de le manquer, parce que figurez-vous qu'un détail nous fait défaut.
Et oui, le morceau s'appelle 2h19 Blues. En France, c'est très simple. 2h19, pour nous, c'est 2h du matin. Et si, par contre, c'est 2h de l'après-midi, pour nous, on dit 14h19.
D'ailleurs, en France, il n'y a pas très longtemps qu'on arrêtait de dire 2h du matin ou 2h du soir. Mais toujours est-il que ce train de 2h19 est mythique dans le jazz, parce que on le doit, paraît-il, à une chanteuse mendiante, légendaire de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelait Mamie Desdoum, et qui n'avait plus tous ses doigts, mais qui jouait quand même du piano en s'accompagnant, et elle ne connaissait qu'un seul morceau, c'était celui-là.
Eh bien, ce train de 2h19, on va le retrouver dans énormément de blues, dont celui que nous allons vous passer, où il y a Louis Armstrong.
Et Sidney Bechet, c'est une des très rares rencontres enregistrées d'Armstrong et de Bechet, et nous allons donc en profiter pleinement.
Number 219 took my baby away. The 219 took my baby away. And the 217 will bring her back someday. You take the TNP and I'll take the LMN. Mama, I said you take the TNP and I'll take the LMN. We got to be lucky, honey, to ever meet again.
Et maintenant, on grimpe dans les chiffres.
Hein. Ah oui.
Parce que le titre suivant, c'est 627 stompes.
Ah, alors ce 627, c'est quoi ?
Eh bien, figure-toi que c'est le numéro de la section de Kansas City pour le syndicat des musiciens.
De tous les musiciens ?
Oh, non.
Ah.
Uniquement des musiciens noirs.
Effectivement, il me semble me souvenir que les deux sections noires et blanches, c'est-à-dire colored d'un côté et white de l'autre, ont été séparées jusqu'à l'abolition des lois de ségrégation qui a été prononcée tard. Hein.
Oui, en 1964.
Et encore, c'était les lois et pas les mœurs. Je pense que la fusion a dû se produire encore nettement plus tard. Donc à l'époque où ce disque était enregistré, en tout cas, elle avait encore cours. Donc le 627, le local 627, c'était issu des musiciens noirs. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous le trouvez dans un magasin quelconque, un DVD qui s'appelle The Last of the Blue Devils. C'est un formidable DVD, entièrement tourné dans le local syndical en question, des dizaines d'années après la grande époque de Kansas City, par les mêmes musiciens qui sont de retour à l'endroit de leur début, finalement, après avoir, pour certains d'entre eux, connu une carrière planétaire. C'est un merveilleux film avec de la musique époustouflante. Ce morceau, il est joué par Pete Johnson. Alors tout à l'heure, nous avons entendu Pete Johnson en train de jouer Stride, ce qui était quand même assez rare pour lui. Et là, il est dans son style habituel, blues et boogie-woogie. Et là, bien franchement, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense qu'il est vraiment le meilleur.
Thank you.
morceau de boogie orchestral, comme doit les aimer Jean-Paul Amouroux, puisque je pense que c'est ce genre de choses qui a dû lui donner l'idée d'organiser depuis très longtemps, assez régulièrement, autour de lui, qui tient le piano naturellement, des orchestres qui l'accompagnent en jouant également le boogie. Tout ça pour vous dire qu'il ne faudra pas oublier le festival de la Roquebrou l'été prochain, du 6 au 8 août. Le programme sur internet est imminent et on annonce déjà du beau monde. N'oubliez pas. Tu sais qu'aux États-Unis, la vente d'armes est quasiment libre. Hein. On peut acheter ce qu'on veut pour se défendre.
Oui, c'est une coutume. Hein.
Ah oui, c'est même une loi. Il y a eu un amendement à la Constitution. Enfin, c'est toute une histoire.
Et qui a la vie dure, parce qu'il y a des tas de gens qui voudraient bien que ce soit réglementé. Et finalement, ça ne se fait jamais.
Dans le milieu plutôt agité des chanteurs de blues et des boîtes où ça se passait, tu sais que le premier de tous les pianistes de Boogie Woogie, qui s'appelait Pine Top Smith, est mort d'une balle perdue à 28 ans dans une rixe à Chicago.
Ouais, il était sur le trajet, le malheureux.
Ouais, il était au piano.
Et au piano.
Et il a ramassé une balle. D'où la fameuse expression « ne tirez pas sur le pianiste, il fait ce qu'il peut ». Voici un autre pianiste et voici une arme. Cette arme, c'est un Colt. Et le 3220, c'est donc la cartouche qui va dedans. C'est une extension de langage. Et cette cartouche, détail intéressant, avait été inventée par la maison Winchester au 19e siècle. Et en fait, le 3220, c'est la cartouche dont se sont servis tous les bandits de grand chemin, cow-boys, bons et méchants, tueurs d'indiens et autres qu'on voit dans les films de série B et même quelquefois de série A. C'est l'arme du Far West, le 3220. Mais tu vois qu'elle a également servi aux chanteurs de blues.
Ça a été adapté de la Winchester, c'est passé à...
Au Colt.
Alors Big Maceo, puisque c'est le nom de cet homme-là, hein, on suppose que c'était pas un pauvre petit homme.
Ah non, c'était un grand bazar, hein, ça c'est sûr.
Et donc un jour, il prend son ami 3220.
Oui, il prend le 3220 dans sa poche revolver.
N'est-ce pas ? Et il la recherche. Et alors ? Il la trouve, malheureusement, main dans la main, avec un tendre ami. Et là, ça ne lui plaît pas du tout, mais pas du tout.
Et il tire dedans, dans l'ami. Après ça, il est bien embêté, c'est ce que disent les paroles, parce qu'il dit, j'ai pas du tout j'ai un tempérament à faire ça, je pose pas pour le pire type de la ville. Mais quand même, moi, quand je vois ma femme avec un autre homme, qu'est-ce que vous voulez
Voilà, je tire dedans. Voilà. Enfin, dans le monsieur.
Je peux pas faire autrement. Ça s'arrête là, d'ailleurs. Ça s'arrête là.
On aurait pu penser que, bâti comme il était, une bonne claque aurait peut-être suffi. Et non.
Mais dans sa chanson, il se dépeint comme un homme plutôt doux de tempérament.
Bof.
En fait, c'est la fureur du timide, quoi. Big Maceo, faut le souligner, là, vous n'allez pas entendre n'importe qui. Beaucoup de gens pensent qu'il fait partie des deux ou trois plus grands au piano et du dessus du panier pour ce qui est de chanter. Et bien entendu, là, il chante. Il a, au piano, beaucoup de couleurs. C'est un pianiste qui met vraiment énormément d'atmosphère dans ce qu'il fait. Et en plus, il était très souvent accompagné par un guitariste également grand créateur d'atmosphère, qui s'appelait Tampa Red. Tampa, c'est la ville où il avait grandi, et c'était son surnom, Tampa Red. De son vrai nom, c'était Hudson Whittaker.
Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec Tampa Red, n'est-ce pas ?
Non, mais comme il était rouquin, comme l'a dit son surnom, j'ai remarqué qu'on a tendance à fabriquer très facilement des sobriquets pour les rouquins, dans le jazz en tout cas. Peu importe le prénom, ils vont s'appeler Red. Hein. Alors lui, c'était Tampa Red, le rouquin de Tampa. Et alors, ce guitariste-là, il renforce l'atmosphère que crée Big Maceo, où ils étaient totalement compatibles. C'est un des meilleurs disques que je connaisse pour le blues de cette époque-là. C'est l'écurie Bluebird dont nous avons parlé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire... toute cette production de disques chez RCA Victor, cette sous-marque Bluebird, qui était très exigeante sur la qualité du blues et qui était pilotée par Big Bill Brunzi. Bref, nous avons tout dit sur ce morceau, je pense. Voici Monsieur Major Merriweather, dit Big Maceo, dans ses œuvres.
Maceo's 3220.
3220, comment est-ce que ça se dit en américain, c'est-à-dire
3220.
Bravo.
I walked all night long with my 3220 in my hand. I walked all night long with my 3220 in my hand. Looking for my woman, well, I found her with another man. When I found that woman, they was walking hand in hand. When I found that woman, they was walking hand in hand. Why, she didn't surprise me when I found her with another man. She started screaming murder, and I had never raised my hand. She started screaming murder, baby, and I had never raised my hand. Tell me she know I had them covered, 'cause I had the stuff right there in my hand.
Et le suivant, pour terminer.
Pour terminer, et oui, pour terminer, et mettre un point final à notre fameuse série.
Il s'appelle 9-20. Alors vous allez me dire 9 quoi ? Cherchez bien. 9-20.
Autrement dit, 9-20.
Absolument. Eh bien, il s'agit de 9h20. Et c'est assez amusant parce que les musiciens pris dans leur musique en studio, quelquefois, avaient des morceaux dont ils se disaient « comment on va l'appeler ?». Alors là, ils étaient embarrassés. En désespoir de cause, cette fois-là, ils ont dit « il est 9h20, on va l'appeler 9h20 ».
Voilà, 9-20 spécial, le spécial de 9h20. D'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'on a baptisé l'indicatif du même big band de Count Basie, qui s'appelle « 1 o'clock jump hein. ». Il était 1h du matin, quelqu'un a montré la pendule.
Voilà. Et je vous reprécise tout. Bien que 9h20, on ne sait pas si c'est 9h20 du matin ou 9h20 du soir.
Alors moi, je parierais pour le matin parce que j'ai connu beaucoup de sons d'enregistrement qui commençaient après la prestation du soir et de la nuit. Après ça, les types allaient au studio et ils attaquaient. J'ai vu une séance de Cat Anderson commencer à 4h du matin, comme ça. Les techniciens des studios Barclay n'en sont pas encore revenus. Mais peut-être c'était le soir aussi, on ne saura jamais. Toujours est-il, c'est un morceau composé par le premier alto de l'orchestre, Earl Warren, mais arrangé de main de maître par M. Buster Harding lui-même, dont on reparlera dans quelques émissions, puisque vous savez que nous avons aussi en train un cycle sur les arrangeurs.
Là, on va voir quelque chose d'un peu particulier, un événement. C'est la seule apparition de Hawkins chez Basie.
Oui, Coleman Hawkins y a fait un passage éclair. Je me demande même d'ailleurs à quelle occasion. Mais toujours est-il qu'il a laissé uniquement deux faces enregistrées avec cet orchestre. Et celle des deux qui comporte des chiffres dans le titre, c'est celle que vous allez entendre. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.